Jacques Pascal Brief, IBFM de Lyon. C'est d'abord une remarque et puis une question à Madame Raymond. Une remarque. Il me semble que dans votre exposé, enfin c'est comme ça que je l'ai ressenti, j'ai eu le sentiment qu'il y avait de votre part une hésitation entre d'une part être critique à l'égard de cette entreprise d'évaluation internationale dont vous montrez, dont vous avez tenté de montrer qu'il y avait des biais, qu'on ne pouvait pas transférer si facilement d'un pays à l'autre des items à mesurer. Et dans un deuxième temps, j'ai eu le sentiment que, au bout du compte, vous preniez très au sérieux les résultats, puisque vous avez vous-même commencé à adresser à nos pratiques scolaires, notamment des pratiques scolaires pédagogiques, un certain nombre de critiques qui seraient la cause de des constats assez médiocres finalement de l'évaluation PISA. Donc c'est cette j'étais un petit peu, j'avoue, je ne savais pas trop bien si je devais ou non porter un certain intérêt à ces remarques internationales, à ces évaluations internationales. Puis, alors, la question que je voudrais vous poser, qui porte plus spécifiquement sur le critère du redoublement. Vous avez montré que finalement, peut-être que là se joue beaucoup de choses concernant les résultats des élèves français qui, à même âge, 15 ans, sont soit déjà au lycée, soit au collège, soit orientés différemment. Mais la question que je me posais, c'est, je connais un petit peu les établissements américains, nord-américains, où, je parle du secondaire, il n'y a pas de pratique de redoublement, où il y a une très grande hétérogénéité dans les classes, puisque d'une certaine façon, on individualise un petit peu à la carte les parcours. Ceux qui sont très bons en mathématiques vont choisir le niveau le plus élevé en mathématiques dans leur programme. Les plus faibles choisiront un niveau plus faible, etc., etc. Ce qui fait qu'au bout du compte, si vous prenez des élèves de 15 ans du même âge, effectivement, ils sont tous dans la même classe, mais ils n'ont pas du tout eu les mêmes parcours scolaires. Alors voilà, donc, je ne sais pas trop ce que vous feriez de ce constat-là, s'il est juste.
Sur les États-Unis, je ne sais pas, Claire, si tu peux dire des choses. Sur les maths, tu peux dire...
C'est mieux comme ceci.
Ah oui.
Alors excusez-moi, donc je ne reprends pas tout. Donc ce que je pourrais simplement rajouter, c'est que sur l'évaluation PISA 2003, nous avons adjoint à notre panel d'élèves prévu pour l'évaluation PISA un panel d'élèves de 3e, parce que nous nous posions l'interrogation qu'a soulevé Martine ce matin, à savoir cette grande variabilité des résultats et notamment l'écart entre finalement les élèves qui étaient à 15 ans en seconde et à 15 ans en troisième, à quoi était-ce dû? Nous avions émis dans le groupe mathématique en fait deux hypothèses. D'une part, est-ce dû à des parties de programme de seconde qui font que les élèves de seconde réussissent mieux que ceux qui sont en troisième au même âge, ou bien était-ce dû au fait que, étant donné qu'ils avaient un an de retard, ils avaient eu auparavant des difficultés, que ces difficultés, eh bien finalement, elles persistaient. Donc, pour un petit peu avoir des arguments supplémentaires, nous avons complété notre panel avec des élèves, donc des classes entières de 3e, c'est-à-dire finalement des élèves de 3e de 14 ans. Et nous avons constaté que les élèves de 3e de 14 ans, donc à l'heure en 3e, avaient des résultats très peu différents des élèves de seconde à l'heure, donc de 15 ans. Donc, parmi les deux hypothèses que nous avions dressées, on rejoint entièrement ce qui a été dit ce matin, à savoir que, visiblement, l'écart de score important était bien plus dû à l'année de retard, c'est-à-dire à des lacunes antérieures, qu'à un effet lié à des nouveautés du programme. Pas des nouveautés, mais des acquis supplémentaires ajoutés par la classe de seconde. Donc ça corrobore tout à fait ce qui a été dit ce matin. Mais on a voulu tester, par rapport aux hypothèses que l'on émettait, voir exactement où on allait. Voilà ce que je pouvais ajouter.
Bon, moi, je vais revenir sur ces... je ne sais pas quoi ajouter de plus par rapport à ce que tu viens de dire, notamment sur les maths. Pour revenir sur l'ambivalence apparemment que j'ai distillée, je crois qu'elle est notamment due au fait que j'ai cherché à approfondir un peu les résultats. Hein. Dire que je suis pour ou contre PISA, je crois que je suis pas capable de me déterminer aussi sèchement, hein, aussi rapidement. Mais ce que je voulais dire, c'est que finalement, PISA n'est qu'un révélateur de choses que l'on pourrait faire apparaître si on regardait d'un peu près, si on interconnectait les résultats qu'on a par ailleurs, hein. Tout au moins pour la compréhension de l'écrit. Hein. On a beaucoup d'éléments, mais bon, encore faut-il ne pas rester aux résultats de surface. Je veux dire que c'est là que je crois que les ratés qu'on a dans l'exploitation des évaluations nationales tiennent notamment au fait qu'on a été dans l'interprétation de surface. Bon, ce que l'on a vu, bon, on sait très bien que dans les circonstances, bon, je vous ai dit, je connais beaucoup mieux le premier degré que le second degré. On a bien vu, par exemple, dans les évaluations nationales à l'école élémentaire, que la manière de les utiliser était liée à la dynamique souvent de l'inspecteur, d'un conseiller pédagogique, enfin d'une politique particulière. Et je crois que si on avait tous exploité suffisamment ces fameuses évaluations, et puis d'autres apports sans doute, on pourrait à peu près être dans les directions que révèle PISA. Bon, il y a des tâches que PISA fait en compréhension de l'écrit qu'on ne fait jamais en France, mais en tout cas, les histoires de des inférences, etc., on les a déjà dans d'autres épreuves. On n'a peut-être pas beaucoup d'items, c'est vrai, c'est pas la même nature de texte, mais en tout cas, je crois que si on analysait les réponses de près, peut-être avec d'autres codages que ceux que l'ADEP proposait, hein, il y a peut-être aussi des nécessités d'exploitation plus poussées, hein, et ou de demandes de justification aux élèves. Enfin, il y a un certain nombre d'éléments qui auraient contribué à aller dans la même direction. Maintenant, PISA, moi, j'ai... De toute façon, la France y participe, elle y participe. Hein. Bon, les apports directs pour les enseignants, je crois, ne sont pas très importants. Hein. En français, je veux dire, il n'y a pas eu d'apport très direct. Je ne sais pas, dans les disciplines telles que maths et sciences, je ne savais plus comment dire sciences parce qu'il y a des items de divers types, hein, mais en tout cas, en français, il n'y a pas eu une incidence forte. Et je ne crois pas qu'il y en aura une forte parce que il faut. Bon, je crois qu'on est ici dans un comité où on a reçu les uns et les autres des échos de PISA. Mais est-ce que les enseignants de terrain reçoivent des échos de PISA, de Pearls ou pas? Et comment ça va infléchir leur pratique? Je ne sais pas, tu peux dire des choses, toi, sur les maths, Claire?
Peut-être.
Non. Dire que ça infléchit, peut-être pas. On souhaiterait que ça infléchisse, oui. Enfin, au sein du groupe, parce qu'il y a un groupe au ministère qui travaille à une réflexion, on va dire, pédagogique sur les résultats de l'évaluation PISA. C'est-à-dire, quand Martine a dit ce matin qu'elle était allée éplucher des cahiers pour voir ce que produisaient les élèves, nous, au sein du groupe, on a fait la même chose. Moi, en collaboration avec un IPR, j'ai d'ailleurs écrit un article à ce sujet en allant, ben là, on a feuilleté je ne sais pas combien de cahiers, on a scanné les productions d'élèves, etc. Puisque ce qui nous intéressait, c'était de voir comment ils avaient répondu. Alors que bon, l'OCDE, elle attribue un certain nombre de points, un certain type de réponse, mais sans aller regarder dans le détail ce que fait l'élève. Donc c'est vrai que pour l'instant, non, ça n'a pas infléchi, mais c'est vrai que quelque part, le souhait du groupe, ça serait tout de même que cela ait des répercussions au niveau de l'enseignement des mathématiques, c'est-à-dire que tu as aussi souligné ce matin que tout ce qui sollicitait une réponse argumentée, enfin la rédaction, nous on a aussi constaté qu'il y avait un taux de non-réponse qui était important, et peut-être est-ce dû aussi au fait qu'en classe, on ne le fait pas assez souvent. Là, pareil, ce sont des hypothèses, hein, je ne parle pas de ce qui se passe dans ma classe ou dans la classe des collègues qui travaillent avec moi, mais je pense que ça serait quand même une inflexion souhaitable, tout au moins par le groupe.
Oui, je voudrais, moi, parler de la variabilité des taux de redoublement selon les établissements, puisqu'il y a donc des cultures d'établissements qui augmentent le redoublement qui le minimisent. Donc, j'étais consultant dans l'académie de Limoges il y a quelques années, et donc sur une quarantaine d'établissements que j'avais rencontrés, j'avais un taux de variabilité de redoublement, je posais la question, quel est le pourcentage donc d'une classe d'âge qui arrive en seconde sans redoublement? Et on arrivait sur des proportions qui étaient de 27% pour les plus faibles à 57% pour les meilleurs. Et la moyenne tournant autour de 36%. Donc voilà un élément qui montre que le contexte peut produire aussi du redoublement qui arrive à influer sur les résultats. Et deuxième élément, toujours sur le contexte, c'est une anecdote qui m'a été racontée par le responsable du CNASEA de Paris, donc qui reçoit des enfants, des nouveaux arrivants de toutes les ethnies. Et donc il signalait par exemple une épreuve qui avait été donnée par un professeur de français dans sa classe, un petit chinois. Donc l'épreuve était la suivante. Donc on avait fait lire un texte de Pénac. Et donc la consigne était, voilà un extrait de Pénac, donne une suite à ce texte en deux pages. Et donc le petit chinois était revenu et avait recopié les deux pages du livre. Parce que donc culturellement, il ne comprenait pas les consignes. Donc on voit quand même que la marge de variation est énorme.
Christine Jourdain, UFM Champagne-Ardenne. Ce matin, pour terminer votre exposé, vous avez parlé de l'évaluation et vous avez parlé de l'importance de fixer une norme. Alors ma question, c'est qui fixe la norme? Est-ce qu'on peut considérer que la norme, elle est fixée par ce qu'on attend au niveau international? Est-ce qu'elle est fixée, puisque dans la logique du processus de Lisbonne, il s'agit bien de s'inspirer des évaluations internationales? Donc quand on fixe une norme, qui va fixer cette norme? Est-ce que, une des questions que j'ai par ailleurs derrière, c'est est-ce que les enseignants adhèrent à la norme? Parce que s'ils font autre chose que ce qu'on attend d'eux, c'est autre chose. Et est-ce que le socle commun est la norme, effectivement, qui permet d'aller vers les évaluations internationales? C'est un grand programme, c'est sans doute...
Non. C'est bien, Bruno va répondre.
Non, je
réponds. Je veux dire, dans votre question, je crois que là, on a de quoi se réunir quelques jours, parce que c'est vraiment la déclinaison de la norme. Au plan international, je laisse ça. Au plan international, dans PISA, on n'a pas à s'inquiéter de la norme. La norme, c'est la moyenne à 500, et tout est calculé pour que les résultats se distribuent comme ça.
La moyenne à 500.
Et puis les quartiers passants. Et alors après, bon, moi quand j'ai parlé de norme, je vais donner la parole à Bruno, c'était très simplement se fixer une norme quand on évalue, c'est-à-dire dire je veux évaluer ça et c'est par rapport à ça que je vais étudier les écarts, hein. C'était dans ce sens-là. Hein. Donc moi j'étais pas dans un référent national, hein. J'étais dans un référent de la classe, plutôt on va dire avec l'ouverture classe qu'à une échelle plus grande. Hein. Bon maintenant peut-être que dans une circonscription on fixera une norme et on fera des épreuves communes et il y aura une norme pour toutes les classes de la circonscription à un niveau donné. Hein. J'ai parlé de normes en tant que référent de l'évaluation. Hein. C'était ça mon concept de norme. Tu voulais dire quelque chose, Bruno?
Non, rien. Une dernière question avant de passer la parole à Bruno, puis on terminera là.
Oui, moi je voulais souligner deux points. Là, je suis Michel Jarton, je suis à l'UFM de Caen. Et pour tourner sur des actions de formation auprès des établissements, je m'aperçois qu'il y a un divorce entre ce que j'appellerais les élites. Vous avez compris, je fais référence ici à un ouvrage récent de Luc Lauzet. Les élites étant représentées par les experts qui ont une lecture finalement des évaluations internationales et du petit peuple que constituent les enseignants. À savoir que finalement, et ça pose le problème de toutes ces évaluations, c'est la capacité qu'ont les experts à mettre en forme quelque chose qui est très complexe, on l'a souligné ce matin, pour que ça soit directement assimilable. C'est le problème de la vulgarisation de ces enquêtes qui n'arrivent pas in fine, au bout du compte, jusqu'à l'échelle ultime qui est la discipline. Quand je dis la discipline, ça veut dire le prof de maths ou le prof de français ou le prof de PS. Donc à chaque fois, c'est cette difficulté. Le deuxième point que je voudrais soulever, c'est qu'au bout du compte, il me semble qu'il y a une grande peur à ce que le prescrit quotidien, c'est-à-dire ce qu'on appelle le prescrit pédagogique, soit déterminé par des enquêtes internationales. Il y a quelque part ici une grande crainte de devoir se voir imposer des pratiques pédagogiques auxquelles chacun reste attaché, ne serait-ce que pour des raisons patrimoniales, et auxquelles on a tendance à vouloir faire croire que finalement elles vont devoir changer à l'aune et à l'aune des résultats internationaux. Autrement dit, si je voulais caractériser un peu la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est, et j'en suis tout à fait convaincu comme vous, hein, que la nécessité de l'évaluation, elle passe à la fois par un travail de proximité et à la fois par un travail au niveau international. Autrement dit, les deux pôles semblent aujourd'hui se regrouper. C'est-à-dire que d'un côté, le niveau international, comme le niveau très pragmatique du collège ou du lycée, sont à la recherche d'une certitude. Autrement dit, il s'agit de passer d'une certaine évaluation à une évaluation certaine. Et c'est là-dedans peut-être que se situe la problématique de l'évolution de nos pratiques pédagogiques au regard de l'évaluation. Voilà.